France Culture et les 16h. Tout de suite, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. D'ici quelques jours, dans le courant de la semaine prochaine, vous pourrez nous adresser vos réactions et commentaires sur le nouveau site de l'émission au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Les objets connectés vont-ils améliorer notre santé? En 2016, pas moins de 6,4 milliards d'objets seront connectés dans le monde. Ce chiffre se rapproche déjà de celui de la population mondiale, qui atteint aujourd'hui 7,4 milliards de personnes. Mais ce n'est qu'un début. La société d'analyse Gartner, qui publie cette estimation, indique une progression de 30% par rapport à 2015. Et le Gartner prévoit que plus de 20 milliards d'objets seront connectés en 2020, soit près de 3 objets par personne vivant sur Terre. C'est dire si ce phénomène a le vent en poupe. Mais à quoi servent ces objets qui communiquent, parfois à notre insu? Avec qui sont-ils connectés? Quels services nous apportent-ils? Face à la multiplicité des applications qui se développent, du GPS à la balance connectée en passant par la caméra de surveillance, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur celles qui concernent la santé. Ce domaine pourrait représenter un marché de 117 milliards de dollars en 2020 selon la société Market Research. Nous ne devrions donc pas échapper à l'assistance médicale des objets connectés. S'agira-t-il d'une aide efficace pour améliorer notre santé et notre longévité ou d'une surveillance bienveillante ou encore d'un espionnage intrusif ? Pour en débattre au cours de cette journée que France Culture consacre au numérique, nous recevons aujourd'hui en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Dimitri Carbonel, qui est président et fondateur de Livosphère et expert en objets connectés auprès de BPI France, également membre de la French Tech. Virginie Fauvel est membre du comité exécutif d'Alliance France en charge du numérique. Elle est présidente de la Fédération Française de l'Assurance, la FFA. Alexis Normand est responsable du développement santé chez WeThing, qui fabrique entre autres des bracelets, des caméras, et nous expliquera évidemment tout cela. Et nous sommes avec Cédric Williamson, qui est fondateur de Keywatch, qui offre des services de surveillance par caméra et qui est avec nous en duplex depuis Nantes. Donc je vous rappelle que vous pourrez donc très bientôt, dans le courant de la semaine prochaine, recommencer à nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques, sur le nouveau site de franceculture.fr. Dimitri Carbonel, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le président fondateur, donc comme je disais, de Livosphère, qui est une entreprise de conseil en projet d'objets connectés.
Oui, tout à fait.
Et que vous avez créé il y a très peu de temps, en début 2014.
Oui, c'est ça, il y a environ 2 ans.
Voilà. Et bien entendu, vous ne ratez jamais le grand rendez-vous mondial de l'électronique, qui est le Consumer Electronic Show, le CES pour les spécialistes ou les habitués. Et ce salon s'est tenu il y a très peu de temps à Las Vegas, du 6 au 9 janvier. Alors en ce début d'émission, peut-être pouvez-vous nous donner un aperçu des nouveautés qui vous ont frappé, en particulier évidemment celles qui concernent la santé?
Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est la 3e année consécutive que je vais au CES. Très rapidement, parce qu'il y a quand même une opportunité pour pas mal d'entreprises sur la partie objets connectés, dans le domaine de la santé, mais au-delà. Parce que typiquement, elles peuvent fidéliser des clients, réduire leurs coûts notamment et augmenter leurs ventes. Et en fait, les objets connectés peuvent devenir un levier pour eux. Et donc, effectivement, Livosphère a pour charge à la fois d'identifier les opportunités et derrière, trouver en place des solutions. Et effectivement, je travaille avec pas mal d'acteurs différents dans le domaine du luxe, dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine aussi des machines industrielles. Et ça coûte de moins en moins cher de tester. Et c'est vraiment l'occasion pour elles d'y s'y lancer maintenant, parce qu'après, ce sera de plus en plus difficile pour elles. Donc c'est un rapide point. En termes de nouveautés, moi il y a 3 choses qui m'ont particulièrement marqué dans le domaine de la santé. Tout d'abord une partie sur tout ce qui est le service. Ensuite une deuxième partie, ça concerne plus les capteurs, on va dire, biologiques qui deviennent connectés. Et une troisième chose, ce sont des acteurs qui n'étaient pas du tout dans le domaine de la santé ou du bien-être qui y entrent. Concernant la partie service, auparavant, les objets connectés, on va dire qu'ils captaient des informations, on savait qu'on était malade, et puis c'était tout. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vous aider à, je veux dire, soit à guérir, ou alors si par exemple vous avez un problème de poids, ben vous saviez que vous aviez un problème de poids, puis c'était terminé. L'étape qui est en train de se passer maintenant, c'est justement, vous êtes malade et on vous aide à guérir. Et là, c'est justement la notion de service. Et je vais prendre deux exemples. Alors, je ne vais pas parler de Weavings qui parlera après, mais je vais prendre deux autres entreprises. La première, c'est Terraillon, qui a un certain nombre de produits connectés, hein, et qui maintenant associe cela avec donc un service de nutritionniste, en fait, qui va vous coacher sur la nutrition. Et encore un exemple qui est encore peut-être plus parlant, c'est Visiomed, qui a racheté récemment, enfin, qui a pris une grosse participation récemment d'une société qui s'appelle MIS, qui utilise l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction, du diagnostic, pardon, médical. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que d'un côté, vous avez des objets connectés, de l'autre, vous avez, par exemple, un certain nombre de, comment dire, un petit questionnaire à faire, et basé là-dessus, il est capable à 85% des cas de faire un diagnostic qui est correct. Ils ont travaillé notamment avec l'hôpital Lariboisière. Et l'étape qui suit, c'est qu'il est capable de vous dire quelle est la maladie que vous avez avec un pourcentage, un pronostic, entre guillemets, ou un pourcentage de chance, et l'urgence à laquelle vous devez voir un médecin. Et derrière ça, ça signifie quoi? C'est qu'ils sont même, ils vont même vous dire quel est le médecin le plus proche, et aussi peuvent vous mettre en relation avec une plateforme. Et pour terminer avec ça, l'intérêt, c'est qu'ils ont la possibilité ensuite, même potentiellement après, peut-être de prendre rendez-vous.
Alors, on va rester là, parce que sinon vous allez nous occuper toute l'émission pour nous expliquer toutes les nouveautés qui sont apparues au CES. Et je voudrais, justement, dans un premier tour de table, on donne la parole également à Alexis Normand. Alexis Normand, bonjour.
Bonjour.
Donc, WeSing est un des grands acteurs, qui est d'ailleurs un précurseur, puisque vous avez créé cette entreprise il y a déjà quelques années, 2008, je crois.
WeSings a été créé en 2008. On a été les premiers à mettre sur le marché un objet connecté à une application mobile en 2009. C'était un PES personne connecté. Et depuis, c'est le leader de sa catégorie auprès du grand public. Et ce succès, donc primé à Las Vegas, nous a permis d'y retourner chaque année depuis avec de nouveaux objets. D'abord un tensiomètre connecté, qui est un dispositif médical en 2011. Et puis après, on s'est aperçu que ce qui plaisait au grand public, c'était les bracelets pour monitorer son activité. Et donc, on a lancé d'abord le Pulse, ensuite toute une gamme de montres, l'activité qu'on fabrique en Suisse, l'activité Pop, l'activité Style, un nouveau tracker. Et plus récemment... qui s'appelle le WeSings Go, que je porte à la boutonnière et
qui
ressemble à un badge qu'on peut mettre au poignet, qui en fait diminue fortement le coût, notamment pour les entreprises, puisque c'est un marché, on passe du grand public en fait à des usages prescrits, donc par des médecins, mais aussi par des entreprises. Et des capteurs sur le sommeil, et on a encore une fois été primé au CES cette année avec le thermomètre connecté en Wi-Fi. Donc ça vous permet certes de prendre votre température, mais surtout de façon temporale sur la tempe, 2000 mesures en une seconde avec 16 capteurs. Et comme c'est en Wi-Fi, ça arrive sur votre application mobile.
Oui, j'ai lu 4000 mesures en 2 secondes, donc c'est le même chiffre que vous. Hein.
Voilà,
effectivement, 2000
c'est pas
en
le
une
même
seconde.
Multiple.
16 capteurs, tout ça pour prendre la température.
Alors, l'intérêt, une fois que c'est sur Wi-Fi, c'est qu'un des prix qu'on a eu, c'est Tech for a Better World. Donc, comment améliore-t-on le monde? En fait, on va pouvoir, si on en vend beaucoup, comme on l'espère, pouvoir envoyer des alertes aux utilisateurs en disant attention, dans la zone géographique où vous habitez, il y a un pic de fièvre. Donc, ce sera d'une certaine manière mieux que le Google Flu Trends.
Donc, de l'épidémiologie intégrée à...
De la veille sanitaire, absolument.
De la veille sanitaire intégrée au thermomètre, en fait.
Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les objets sont communicants, on peut restituer une partie de l'intelligence collective qui génère aux utilisateurs pour donner des conseils. Par exemple, si je prends l'exemple non pas du thermomètre mais de la balance, on s'aperçoit que plus les gens se pèsent, plus ils perdent du poids, mais à l'inverse, ceux qui se pèsent de moins en moins en gagnent. Eh bien, ça, c'est une statistique qu'on va envoyer aux utilisateurs individuellement s'ils se pèsent de moins en moins pour les informer sur les comportements qui sont sains.
C'est-à-dire pour leur dire de se peser plus souvent.
Par exemple. Alors, parfois, ce qui marche le mieux, c'est pas la prescription, c'est simplement par le jeu. Donc, par exemple, ou par l'information. Notre balance est connectée, elle vous donne la météo. Donc quand vous pesez le matin, vous savez quel temps il va faire, vous savez comment vous habiller, comment vous habiller. Et en fait, ça vous donne une raison de vous peser. Et en vous donnant une raison de vous peser, ça vous motive pour rester en bonne santé.
Si elle faisait le café, par exemple, ce serait encore plus motivant. Mais
et on y travaille.
Vous n'en êtes pas encore voilà. Là. Cédric Williamson, bonjour. Vous êtes avec nous depuis Nantes.
Bonjour.
Vous nous entendez, formidable. Vous avez créé la société Keywatch en 2011. Et vous, vous êtes spécialisé dans la vidéosurveillance à la portée de tous. C'est-à-dire que vous allez aussi jusqu'à lancer un concept de vidéo bienveillance. Peut-être qu'il faut nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là.
Complètement. Au-delà, en fait, de la vidéo vigilance et de la vidéo protection, chez Keywatch, on s'est vite rendu compte que la vidéo, c'est l'œil et l'oreille. C'est la possibilité d'interagir avec, et de scruter ce qui se passe et derrière d'interagir avec ce qui se passe. Forcément, on pense souvent à des applications de sécurité, mais au-delà de ça, vers tout ce qui va soucier le consommateur, l'habitant dans sa maison, et tout ce qui peut être lié à son univers de vie, et bien entendu à sa santé. Alors on pense forcément à ce qui a pu se passer dans les années précédentes autour des personnes âgées, la surveillance des personnes âgées, mais ça va bien au-delà de ça, puisque avec la vidéo, avec le son, on peut scruter des habitudes de vie, des mouvements, des attitudes, notamment la personne tombée au sol. Avec le son, on peut avoir des alertes par la parole, et on peut aussi envisager des interactions plus fortes, comme de la vidéo, de la visiophonie médicale en cas de problématique. On peut aussi envisager de scruter la température. C'est-à-dire de voir que la température de la personne a changé. Et aussi, bien entendu, ensuite s'interfacer avec d'autres outils comme les outils dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut aller très très loin.
Oui.
Parce qu'on se rend compte qu'en scrutant les habitudes des gens, si les gens ont une attitude déviante, c'est qu'il se passe quelque chose. Et à partir de ça, avec des algorithmes, on va pouvoir analyser ce qui se passe, éventuellement envoyer des alertes ou conseiller les gens de faire quelque chose à un moment où il va y avoir un problème pour leur santé.
Alors on va revenir sur toutes ces dimensions, parce que là, en balayant un peu ces trois témoignages déjà, beaucoup de questions sont soulevées. Virginie Fauvel, bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai justement attendu qu'on ait fait ce premier tour de table avec ceux qui sont directement en prise avec ces objets connectés, pour avoir votre avis, du point de vue d'un assureur, quelle est la première réflexion qui vous vient à l'esprit quand vous entendez la description de ces objets déjà ?
En fait, déjà en tant que citoyenne française, je trouve qu'on a énormément de très belles entreprises dans l'e-santé en France, et je pense que c'est important de les promouvoir, parce que on a raté quelques virages numériques en France. Voilà, les grands du numérique ne sont pas français. Sur l'e-santé, il y a vraiment des sociétés qui commencent à avoir un poids assez important, et je pense que c'est important de les encourager, de leur permettre d'avoir un terrain de jeu grand à l'échelle de l'Europe, en mettant des lois qui soient davantage unifiées. Donc déjà, moi, vraiment, en tant que citoyenne française, je me réjouis de ce mouvement. Après, au niveau de la santé et plus généralement en tant qu'assureur, je préside effectivement la commission numérique de la FFA, qui a été créée d'ailleurs hier. On distingue en fait les données que l'on peut qualifier de bien-être et les données qui sont plus de santé. Quand on calcule le nombre de pas, quand on calcule le nombre de marches, c'est vraiment des données qui sont de bien-être. Et dans la prévention, vous savez que les assureurs sont très actifs dans la prévention, on pense que c'est un vecteur d'amélioration de la santé. Ensuite, sur les objets connectés de santé, qui sont plus des dispositifs médicaux, on pense que ça peut permettre à un certain nombre de patients de rester chez eux, de pouvoir être soignés de façon plus rapide, plus réactive. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel l'assurance a un regard à la fois bienveillant et aussi à la fois attentif, parce que il y a aussi beaucoup d'objets connectés qui fleurissent de ci, de là, qui sont pas forcément très régulés, dont les données ne sont pas forcément très protégées. Et on ne sait pas quel usage exact il en est fait. Et c'est vrai qu'il y a une attention toujours sur l'assureur, que fait l'assureur sur les données de santé. Et assez peu, en fait, sur des acteurs alternatifs qui seraient non français, voire non européens. Et le dernier point d'attention qui me semble important en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'assureur, c'est de faire attention, parce qu'on a un système de santé aujourd'hui qui est en France basé sur la mutualisation, qui est un système qui est social. Il a des défauts, il a des qualités, mais je crois que chaque Français trouve qu'on a un bon système de santé. Et il faut faire attention que des sociétés étrangères qui n'ont pas le même ADN que nous fassent perdre la souveraineté de la France sur la santé et mettent en place un système de démutualisation. Donc on a une attention extrêmement forte sur ces sujets-là. L'assureur, hein, en toute chose, il base le risque sur de la mutualisation. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc si certains acteurs arrivent et bouleversent la mutualisation, on aura un souci sur notre système de santé.
On va évidemment revenir sur l'impact que peut avoir le développement de ces objets sur l'assurance, sur la santé d'abord et sur l'assurance évidemment ensuite. Et Dimitri Carbonel, peut-être un mot sur ce chapitre des Français dans ce domaine. Vous êtes très bien placé pour observer cela puisque vous êtes également expert auprès de la Banque publique d'investissement, la BPI, qui est chargée de financer des entreprises, par exemple, qui démarrent des start-up.
Mais effectivement, je pense que Il y a deux choses, deux tendances qui sont très fortes. La première, d'un côté, il y a énormément de start-up dans le domaine de la santé, mais aussi au-delà. Juste pour donner un exemple, il y a une start-up corse, notamment, qui s'appelle Elsi, hein, qui fait un capteur qui permet notamment de savoir la masse musculaire, si on perd la masse musculaire ou la masse graisseuse lorsqu'on fait un effort. Il y a encore plein d'autres start-up qui se font. L'autre chose, c'est que ces startups après deviennent des ce qu'on appelle des scale-up et deviennent plus grosses et commencent à devenir même des PME, des ETI. Ça, c'est une première chose. Et puis qu'ils grandissent comme Weavings et Netatmo ou d'autres encore. Deuxième chose, c'est qu'il y a des grands groupes aussi qui s'y mettent. Qui viennent soit effectivement du domaine de la santé comme Visiomed ou d'autres encore. Et ce qui montre que d'un côté, il y a aussi des partenariats qui se font entre les grands groupes et les start-up, de telle sorte que on ne vient pas uniquement avec quelques entreprises, mais c'est un véritable mouvement de fond de la French Tech avec des grands groupes, des plus petites entreprises, des PME et des start-up. Et je pense que c'est la véritable force que l'on a, et sur tous les différents domaines, pas uniquement sur la partie matérielle, mais aussi sur la partie des services, sur la partie de l'assurance, sur énormément de domaines différents. Donc on couvre un champ très important et on a une opportunité formidable devant nous et on est en train de vraiment de la transformer.
Alexis Normand, est-ce que vous confirmez ce contexte favorable finalement, et c'est pas tous les jours qu'on en trouve un dans le numérique, en France, pour le développement de cette activité?
Alors absolument, je pense que la France est un paradis en termes de compétences, d'ingénieurs. Donc si je prends l'exemple de WeSings, on peut compter sur des gens extrêmement qualifiés, que ce soit en électronique, en système embarqué. On a des ingénieurs de très très bonne qualité. On a également un écosystème numérique très intéressant qui permet de monter des partenariats. Après, on s'aperçoit que le marché français tout seul est beaucoup trop petit pour une entreprise comme WeSing si elle veut prospérer. Et nous, ce qu'on a fait très rapidement, c'est qu'on a créé un bureau aux États-Unis où, enfin, on vend 10% des objets connectés WeSing en France et 50% aux États-Unis. L'Europe représente 40%. Donc, la France est un centre d'excellence pour la R&D. Et même parfois un paradis fiscal avec le crédit impôt recherche, il faut le souligner. En revanche, c'est pas le marché du tout le plus porteur. Et notamment, alors on pense toujours aux objets connectés pour le grand public, donc ça, la France a égalité avec les États-Unis, mais si on prend le marché du médical, on voit les acteurs américains ou les acteurs hollandais, enfin en gros ceux qui financent le suivi à distance plutôt que la consultation à l'acte, prendre une avance considérable sur la numérisation en santé sur la France. Donc sur le grand public, on est très bon, sur les compétences aussi, mais pas pour réformer notre système de santé.
Alors ça, c'est effectivement un énorme autre sujet, mais forcément qui croise ce dont on parle aujourd'hui. Cédric Williamson, peut-être un témoignage de votre côté en tant que PME qui démarre, hein. Je rappelle que vous avez été créé en 2011.
Tout à fait. Ce qui a été dit précédemment est très intéressant parce qu'effectivement, il y a une espèce de réticence assez forte en France en général sur les questions d'interconnexion, sur les questions de base de données. Il y a un exemple qui est très 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 fort dans l'intérêt du numérique pour l'amélioration de la santé, c'est la comparaison entre le réseau Sentinel et un moteur de recherche. Je citerai pas le nom de moteur de recherche, vous les connaissez, mais aujourd'hui, le réseau Sentinel, vous avez une alerte épidémique parce que ce qui est donné par les généralistes, qui va remonter d'un système centralisé, etc. Et vous avez à peu près 3-4 jours au mieux au démarrage d'une épidémie de grippe. Aujourd'hui, avec un moteur de recherche, parce que les gens sont malades, ils vont faire des recherches liées à leur maladie, en donnant les symptômes, vous allez avoir une immédiateté du retour d'information. Donc, bien évidemment, les objets connectés, le numérique apporte quelque chose de formidable dans l'amélioration de la santé. Après, effectivement, il y a les questions d'acceptabilité qui sont très fortes. Ce que disaient aussi nos amis assureurs sur la question de maîtrise des données. Maintenant, ce que je crois, moi, c'est que les acteurs sont suffisamment majeurs et ont suffisamment compris leur intérêt à faire les choses de façon raisonnée. Nous, chez Keywatch, par exemple, on fait attention à ça. On a des données vidéo. Les données vidéo, c'est très fort. Ça amène beaucoup de choses. Donc derrière, il faut être absolument carré. Et je crois qu'aujourd'hui, l'internationalisation de toutes ces technologies, le public, nous-mêmes chez Keywatch, on a vu les choses évoluer. Les gens posent plus tellement de questions sur la question, juste des questions de confiance sur où sont gérées les données, que fait-on des données, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour pouvoir aller plus loin. C'est les questions d'acceptabilité. Il y a aussi les questions d'appréhension de la technologie. On a vu dans le monde des personnes âgées qui a été le premier touché par ces objets connectés, notamment avec des bracelets ou avec des colliers. Les gens les mettaient pas, étaient assez réticents. Aujourd'hui, on a des technologies de moins en moins intrusives, de plus en plus faciles à utiliser. C'est le cas des objets WeThings, par exemple. C'est vraiment de très beaux objets. Nous, aujourd'hui, chez Keywatch, on met une caméra. La caméra, elle est neutre. On s'en occupe plus. Et on fait des choses de façon relativement automatique. Et ça, vraiment, l'acceptabilité, la facilité d'usage, ça fonde la base de la diffusion des technologies dans la population. Et derrière, bien sûr, des retours pour la santé.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Les objets connectés vont-ils améliorer notre santé? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités. Dimitri Carbonel, président de l'Ivosphère, Virginie Fauvel, membre du comité exécutif d'Alliance France, Alexis Normand, responsable du développement santé chez WeThings, et Cédric Williamson, fondateur de Keywatch. Alors, on entre dans le vif du sujet, là, qui est ces objets. Comment fonctionne-t-il déjà plus précisément? Là, on a survolé un petit peu ces différentes approches et les différents paramètres qui sont susceptibles d'être enregistrés, les informations qui sont susceptibles d'être communiquées. On va voir comment, à qui, etc. Mais peut-être déjà rentrer dans des exemples plus précis de description du fonctionnement de ces objets. Dimitri Carbonel voulait intervenir tout à l'heure. Je commence par lui.
Alors oui, en fait, c'est en plusieurs parties, hein, pour faire un objet connecté. Au départ, il y a des capteurs. Donc, ça peut être effectivement des capteurs de température, des capteurs de poids ou peu importe. Ensuite, on va analyser ces données. On va les transmettre par différents moyens, le Bluetooth, du Wi-Fi. Maintenant, il y a du Sigfox ou d'autres choses. On va le mettre effectivement sur une plateforme. Et après, on va pouvoir le récupérer directement sur son téléphone. Ou alors, parfois, il y a une connexion directe entre l'objet et ensuite son téléphone via, par exemple, du Bluetooth ou du Wi-Fi.
Et donc ça, c'est un circuit qui est quand même assez personnel, celui que vous décrivez. C'est-à-dire, c'est un service qui est rendu à une personne en particulier, qui est en gros le pilote de cette surveillance.
Alors oui et non. En fait, tout dépend de comment les entreprises gèrent cette information. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les informations remontent à un niveau d'une plateforme. Après, que les données qui sont sur cette plateforme,
alors,
il y a deux possibilités.
Où est la plateforme? À qui appartient-elle? Et
exactement,
qui peut y avoir accès, en fait? Ce sont les questions.
C'est tout à fait. Soit cette plateforme, les données qui sont sur cette plateforme, parfois peuvent être partagées avec d'autres entreprises. Et justement, notamment la loi qui est en train de passer, qui a mené Axel Le Maire, c'est de redonner le contrôle aux consommateurs sur ces données et à qui elles sont données. Hein. Et de l'autre côté, il y a des cas où, même pour éviter de donner justement ces données sur une plateforme, il y a certains consommateurs qui disent ben, « Non, je garde tout effectivement ou une très grosse partie en interne sur l'objet lui-même et je transmets le minimum sur la plateforme. » Comme ça, si c'est hacké, si par exemple on risque effectivement d'avoir accès à la plateforme, ben on évite tous les risques. Donc il y a aussi une sensibilité de la part du client et du consommateur, enfin justement sur ce sujet.
Alexis Normand.
Je pense que ce qu'il faut bien voir avec ce qu'on appelle les objets connectés, en fait, ce sont des objets qui apportent un service qui s'adaptent en fonction des usages. Ça fait 30 ans qu'il y a de la télémédecine et que des médecins savent mettre une balance avec une carte SIM qui renvoie les informations à l'hôpital. Seulement, ça n'a jamais vraiment pris au-delà de pilotes d'une cinquantaine de personnes. Un objet connecté, c'est très concrètement pour le grand public, c'est d'abord un objet qu'on peut relier à son smartphone et qui va enregistrer des informations, mais dans le but de vous procurer un service. Si je prends l'exemple de WeSings, c'est une courbe de poids historique qui va être construite à partir de vos pesées ou un historique de votre activité à partir de votre montre. Donc ça arrive en Bluetooth ou ça arrive en Wi-Fi sur votre téléphone. Et effectivement, à quoi elle sert la plateforme ? Elle sert à mettre à jour le service. Elle sert à améliorer l'expérience utilisateur. Donc avant de se poser d'autres questions, c'est d'abord celle-là. C'est quel est le service qu'on peut apporter à l'utilisateur ? Pour vous donner un exemple, quand vous avez une balance connectée en Wi-Fi de chez WeSings, elle est mise à jour très régulièrement pour créer des nouveaux services. Des gens qui l'ont acheté il y a 2 ans, un jour, se sont aperçus qu'ils pouvaient avoir la météo en allant dessus. Et on a dit au début, ça va super, c'est la balance qui va tweeter votre poids. Sauf qu'on s'est aperçu que presque personne ne tweete son poids. En revanche, ce qui intéresse les gens, c'est la courbe de poids, c'est l'historique. Donc on a mis à jour l'application mobile pour que ça soit plus facile, plus intuitif, etc. etc. Donc c'est d'abord un objet qui apporte du service.
D'accord. Alors, ce que vous décrivez, c'est un système dans lequel les données ne sortent pas finalement, les données sensibles, c'est-à-dire celles, les mesures du poids par exemple, ne sortent pas de ce que maîtrise l'utilisateur, c'est-à-dire son iPhone ou son téléphone plutôt, ou son ordinateur. Là, il n'y a pas de plateforme déportée dans laquelle les données seraient stockées.
Alors, par exemple, quand
C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit, ça sert juste à mettre à jour l'application.
Oui, mais en fait, la mise à jour suppose une centralisation de l'information. Donc, c'est tout à fait compatible avec la protection de la confidentialité des données individuelles. Donc, WeSings, on est en France, on est soumis à la loi informatique et liberté. Vous créez un compte, évidemment, on vous promet de protéger vos données et aucune ne peut être partagée sans le consentement explicite de la personne. Mais ayant dit cela, pourquoi est-ce qu'elles sont centralisées ? Elles sont centralisées parce que ça permet d'améliorer le service. Quand je me pèse, je n'ai pas juste le poids. On repère en accédant à la plateforme que c'est moi. Parce que je suis la seule personne de mon foyer à être dans cette fourchette de poids. À partir de là, on peut utiliser mon âge, mon sexe, et faire un calcul d'impédance pour me calculer ma masse grasse. À partir de là, on peut me procurer mon historique de poids, que je consulte l'historique depuis mon smartphone ou depuis mon ordinateur. Après, je peux par exemple utiliser... Moi, je suis en bonne santé, donc tout va bien. Mais admettons que j'ai le diabète. Un autre prestataire me propose un service pour m'aider à gérer ce diabète. Le fait de l'avoir centralisé, ça permet d'échanger cette donnée rapidement vers un prestataire de service. Ça permet de l'envoyer à un médecin. Donc la plateforme, le cloud, comme on dit, en fait, c'est ce qui permet tous ces services.
Oui, sauf que là, dans ce cas-là, c'est pas forcément la volonté de l'utilisateur. Il n'a pas forcément envie que ces données soient potentiellement...
Il l'accepte en créant un compte.
Alors, il l'accepte obligatoirement.
Explicitement.
Obligatoirement.
Obligatoirement.
Ouais. Virginie Fauvel.
Ouais, c'est un concept qui est très important parce que la donnée de santé... particulièrement en France, c'est une donnée qui est très sensible. Aux États-Unis, dans les milieux anglo-saxons, la donnée de santé est moins sensible. En France, il y a une vraie sensibilité. Moi, je crois beaucoup à l'autodétermination informationnelle ou à un blue button à l'américaine. Ça consiste en quoi ?
Button, là, vous allez nous expliquer.
Voilà. Alors, c'est au Conseil national du numérique, on pousse beaucoup là-dessus.
Dont vous faites partie, j'ai oublié de préciser
absolument.
Tout à
l'heure. Le blue button aux États-Unis, en fait, c'est... un bouton qui permettait aux vétérans américains de partager leurs données de santé avec des chercheurs. Et je pense que le citoyen en France doit reprendre possession de ces données, que ce soit ses données de santé ou autres, parce qu'il ne sait pas exactement ce qui est capturé par son téléphone portable, ce qui est capturé par les capteurs qu'il a dans sa maison, par sa voiture. Donc qu'il reprenne possession de ces données et qu'il puisse les donner à un tel ou un tel, mais pas par défaut, je dirais. C'est sciemment de dire « je veux donner telle donnée de santé à la recherche pour aider le diabète » comme vous en parliez tout à l'heure. Et j'aspire vraiment à ce qu'il y ait une prise de conscience du citoyen là-dessus. Ça ne veut pas dire empêcher le développement des objets connectés, ça ne veut pas dire contraindre les sociétés françaises, c'est vraiment la prise de conscience de l'individu sur les données de santé.
Alors évidemment, Alexis Normand veut répondre. Allez-y, oui, rapidement, parce que je voudrais entendre aussi Cédric Ouliassen.
Rapidement, le Blue Button, ça permet de télécharger les données qu'a accumulées l'assurance maladie sur vous. Aujourd'hui, vous voulez récupérer toutes les données WeThings que vous avez enregistrées. Vous la téléchargez, c'est automatique, le bouton est dans l'application, il n'y a pas de problème. Le Blue Button, c'est obliger l'assurance maladie à faire la même chose. C'est-à-dire, demain, je pourrais demander à la personne qui collecte le plus de données de santé sur moi, qui n'est pas WeThings, mais l'État, enfin l'assurance maladie, de en fait me donner droit d'accès numériquement à ces données et pourquoi pas les mettre sur une application mobile qui va les analyser. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est de faire circuler l'information. Et le sésame, c'est toujours le consentement de la personne. Et on y est extrêmement attaché chez WeThings, je vous rassure tout de suite.
Jusqu'à même un point, vous avez dit que c'était une obligation de faire remonter ou de ces informations. Pourquoi est-ce une obligation ?
C'est une obligation parce que c'est ce qui permet d'assurer un service numérique.
Si je veux simplement suivre ma courbe de poids avec votre balance, est-ce que j'ai le droit de ne pas exporter mes données ?
Vous avez le droit, effectivement, de mettre vos données sur un fichier Excel. Vous voyez, c'est un peu comme, je vais prendre une analogie, le Pass Navigo. Le Pass Navigo enregistre tous les voyageurs et ça permet de réguler le trafic. Eh bien, la centralisation des données sur une plateforme, ça permet d'adapter le service aux usages. Et c'est ça qui est extrêmement puissant avec les objets connectés et c'est là-dessus qu'il faut insister.
Alors, justement, Cédric Williamson, vous, c'est aussi une donnée sensible. Vous avez parlé tout à l'heure du comportement des personnes qui sont à leur domicile et qui est surveillée finalement par un système de caméras. Est-ce que la question de l'acceptation, l'acceptabilité que vous avez mentionnée reste un problème ou pas ?
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de questions sur ce sujet-là chez nos clients. Je rejoins la position de WeThings et on applique exactement la même logique chez KeyWatch. Pour revenir sur ce que disaient nos amis assureurs, je crois qu'il y a une question importante, et ça c'est un vrai sujet dans la société française, c'est le sujet de la confiance. J'ai travaillé, avant de fonder KeyWatch, j'ai travaillé pendant longtemps sur le sujet des technologies et de la santé. Et il y a 15 ans de ça, j'ai animé des conférences avec la personne qui était le professeur qui était le patron de la radiologie au CHU de Nantes et qui m'a dit, ben voilà, moi j'adore les technologies, j'adore la santé, j'ai voulu travailler sur ce sujet-là avec les Français. Il y a de telles réticences, de tels boucliers qu'aujourd'hui j'ai bossé avec les Scandinaves et les Chinois. Et ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire que ce monsieur-là partait travailler tous les 2 mois, une semaine en Chine avec des Chinois qui se disaient il n'y a pas de problème, avec des Scandinaves qui disaient bah effectivement c'est le bien de tous parce que le gars qui est dans sa petite cahute à 40 km de la première ville alors qu'il y a une tempête de neige, si on peut avoir ses données de santé et faire en sorte qu'il soit plus malade ou d'intervenir quand il faut, il y a un vrai gain. Et en France, on a complètement cassé ça, notamment avec l'histoire du DMP, le dossier médical partagé dans lequel on a mis un fric fou et qui n'a jamais abouti. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire confiance. Et nous, on est des sociétés effectivement responsables. S'il faut effacer des données, on peut effacer des données. Mais surtout, le client a la main sur ces données. Et s'il veut les effacer, il les efface. C'est comme sur l'iPhone aujourd'hui. Vous avez la possibilité... votre activité est suivie. Vous avez la possibilité de l'arrêter. Aujourd'hui, moi, je me fiche de savoir qu'Apple peut suivre ce que je fais. Ma petite personne n'a pas grand intérêt, à mon avis, vis-à-vis d'Apple. Ce qui peut être intéressant derrière, par contre, c'est effectivement, à certains moments, chez des personnes qui peuvent être malades, de pouvoir remonter des informations, des alertes, etc., et vraiment d'améliorer la santé.
Virginie Fauvel.
C'est plus important que le reste.
Virginie Fauvel, comment vous ressentez cet équilibre relativement délicat qu'il va falloir établir entre le fait de donner des informations qui sont assez intimes, assez personnelles, et le gain que l'on peut en retirer en termes de santé et aussi peut-être en termes d'assurance.
Oui, alors effectivement, chez Allianz, on a une position qui est très claire. On ne veut pas de données individuelles sur la santé. Sur les objets connectés, on pense que c'est pas le rôle de l'assureur. En revanche, on se base sur de la prévention. Donc, offrir des réductions ou offrir des objets connectés autour de la santé pour que nos clients puissent se peser, puissent mesurer leur tension, leur pas, voire nos salariés, on est tout à fait ouvert à cela. En revanche, on ne veut pas de données individuelles qui feraient un lien sur les primes d'assurance santé.
Et pour quelles raisons éthiques, des raisons quel ordre ?
Parce que oui, je pense qu'il y a un sujet éthique, absolument. Je pense que les données de santé en France n'ont pas à intervenir sur les primes d'assurance. Je ne pense pas que ce soit très sain de lier une prime d'assurance au nombre de pas qu'un client fait et qu'on traque nos clients. Je vais vous donner un exemple sur les données de voitures, qui sont un sujet beaucoup moins sensible. On a lancé Alliance Conduite Connectée. Donc, on met un dongle dans la voiture du client. Enfin, le client met un dongle dans la voiture du client.
Donc, c'est-à-dire un petit système électronique.
Un petit système électronique qui est relié à son téléphone. Et ça permet de mesurer les mouvements de volant, l'accélération, la décélération. Si le client a une conduite risquée ou pas, est-ce qu'il conduit sans faire de pause, etc.
À quelle vitesse, pendant combien de temps, etc.
Et alors, justement, c'est-à-dire que le client, on ne suit pas, en fait, son parcours parce que le client ne veut pas que l'assureur sache en permanence où il est, et on ne mesure pas sa vitesse, parce que bien sûr tous les clients et tous les Français respectent les limitations de vitesse, mais donc on se met des limites dans les données que l'on partage avec nos clients.
Enfin, ça, c'est des limites que vous mettez mais volontairement.
Je pense que c'est important de se mettre des limites.
Qui ne sont pas forcément gravées dans le marbre, pour toujours.
Écoutez, elles le sont en tout cas sur la santé.
Dimitri Carbonel, tout le monde veut intervenir, mais...
Oui, moi, il y a un autre point que je trouve qui est très intéressant avec les objets connectés, c'est qu'on redonne du pouvoir au client, à l'utilisateur. Et la raison, je vais prendre un exemple tout bête, il y a c'est un petit capteur qui s'appelle CIO, qui est un spectromètre, qui permet d'analyser la nourriture, les médicaments, les cosmétiques. Et à partir de là, vous pouvez vérifier si, par exemple, un industriel effectivement est honnête avec vous et dit effectivement que c'est allégé, pas allégé, qu'il y a bien les bonnes matières ou pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, premièrement, il y a peut-être 200 ou 300 ou plus de gens d'agents dans la répression des fraudes. Ici, c'est des millions de personnes qui ont la capacité, qui vont avoir la capacité de vérifier que ce que les fabricants leur disent est la vérité ou non. Et potentiellement, il y aura peut-être des scandales comme Volkswagen qui reviendront. Et toutes les entreprises qui sont honnêtes par rapport à ça, eh bien, ont beaucoup plus d'impact alors que celles qui ne le sont pas, au contraire, risquent d'avoir des gros problèmes en termes sur le chiffre d'affaires et même de notoriété. Et donc, on donne le pouvoir, effectivement, au consommateur final qui, maintenant, a un moyen, entre guillemets, de pression vis-à-vis des marques. Et je pense que ça va bouleverser ces industries comme les cosmétiques, l'agroalimentaire et la pharmacie.
Alexis Normand.
Oui, si je reviens un petit peu sur l'impact que ça peut avoir sur la santé, parce qu'il s'agit sur ces différents objets essentiellement de suivi et donc en fait de détection de risques. Donc vous avez demandé aux assureurs si on allait changer la tarification du risque. Mais il y a une autre façon de voir le problème qui est de dire est-ce que par rapport à ce risque, on peut pas essayer de le diminuer via un service. Donc plutôt que d'avoir une approche financière, avoir une approche par les services. Et en tant que fournisseur d'objets connectés, on voit tout un panel de services qui se développent autour de nos objets. Alors
Par exemple,
à Leiden, le service de cardiologie de l'hôpital nous dit on estime pouvoir éviter 9 hospitalisations sur 10 ou 9 urgences sur 10 simplement en ciblant des patients cardiaques, en leur donnant un tensiomètre connecté, en leur donnant une balance connectée et un ECG, et on va pouvoir faire venir les gens qui en ont besoin, et à l'inverse, on va éviter que viennent les gens qui n'en ont pas besoin. Et ça, c'est financé par l'assureur. C'est-à-dire qu'ils sont en négociation directe. Ils disent, au lieu de payer la prestation de santé à chaque fois que la personne vient à mon hôpital, je vais me mettre d'accord sur un forfait avec un assureur et on va voir à la fin de l'année si ça marche. Donc, pour résumer, vous avez une logique où l'assureur, qui peut être privé, mais ça peut aussi être l'assurance maladie, financer des services de réduction du risque. En France, vous avez la MGEN qui lance un programme qui s'appelle VivOptim, qui vise à réduire l'incidence des maladies cardiovasculaires pour les assurés de l'éducation nationale. Et ils utilisent des objets connectés. Ils n'ont pas les données individuelles. C'est pas l'assureur, mais en revanche, ils financent.
Je suis tout à fait en phase avec ce que vous venez de dire. Enfin, c'est plus cette approche, effectivement, qui me semble être la bonne.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui la question, les objets connectés vont-ils améliorer notre santé, avec nos invités Dimitri Carbonel, président de l'Ivosphère, Virginie Fauvel, membre du comité exécutif d'Alliance France, Alexis Normand, responsable du développement santé chez WeThink, et Cédric Williamson, fondateur de KeyWatch. Alors justement, Cédric Williamson, je crois que vous avez passé un accord très récemment avec AXA. pour la fourniture de, d'un système. Alors peut-être que vous pouvez nous le décrire.
Tout à fait, de vidéovigilance, qui va dans ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement cette possibilité, cette capacité pour le client d'utiliser la vidéo et le son, à la fois pour sa sécurité et pour d'autres usages derrière. On rejoint tout à l'heure ce qui a été dit par les gens d'Alliant, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de traquer les gens, d'individualiser les utilisations, et surtout il est question... Pour les gens, ce que disait tout à l'heure la personne de WeThings, il est question effectivement pour le client final de pouvoir ou non activer le système, de pouvoir ou non conserver, détruire des données et d'être complètement libre là-dessus. Et je crois que c'est vraiment, il y a un cercle vertueux dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant, à la fois les assureurs comme Allianz ou AXA, à la fois les fournisseurs de services numériques. C'est que tout le monde a compris où était l'enjeu et tout le monde a, je pense, une très grande responsabilité et un très grand souci de préserver les données personnelles et que les choses se fassent correctement.
Comment fonctionne le système avec AXA et quel est l'intérêt pour AXA, pour vous et pour l'utilisateur ?
Alors, aujourd'hui avec AXA, on est dans un système d'alerting, c'est-à-dire que on est sur de la vidéoprotection, on est sur la capacité d'interfacer, par exemple, alors c'est un exemple très très concret, d'interfacer un détecteur de fumée avec une caméra qui va permettre de dire il y a bien quelque chose qui se passe et voilà ce qui se passe, puisqu'on le voit alors qu'avant on était aveugle et que très rarement ces détecteurs de fumée étaient connectés. Et là, on a la possibilité de revérifier ce qui se passe, on a la possibilité, si on a distance, de prévenir des secours comme les pompiers pour qu'ils interviennent. Ça va très loin. Et c'est très intéressant pour le client final. Nous, on a eu le témoignage, on n'a pas forcément le témoignage de tous nos clients parce qu'on ne scrute pas ce qui se passe, c'est au client de nous dire si c'est passé quelque chose d'intéressant. On a eu au moins un témoignage d'une personne qui nous a appelé en disant c'est génial parce que j'ai pu détecter le déclenchement d'un incendie et faire ce qu'il fallait derrière.
Alors vous avez précisé, plusieurs d'entre vous, la question de l'individualisation. Ça a l'air d'être quand même le cœur de la problématique qui peut se poser vis-à-vis de ce développement des objets connectés. Est-ce que cette individualisation n'est quand même pas la perspective inéluctable, Dimitri Carbonel ?
Disons, on a vu, hein, comme on l'a dit, au niveau de l'assurance, c'est tout le modèle économique de l'assurance qui est remis en cause si on commence à tout individualiser. En revanche, il y a une autre chose.
Mais comment l'éviter ? Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais comment éviter l'individualisation alors que tous ces objets sont fondés sur l'individu ? C'est une question assez basique.
Je pense que déjà, de toute façon, il faut, et même les assureurs eux-mêmes, à ce moment-là, je laisserai plus la parole à Allianz là-dessus. Après, il y a un autre point qui me semble beaucoup plus important, c'est aussi d'apporter le service qui répond exactement au bon moment à la problématique. Et on va plus rentrer, c'est ce qui est en train de se passer, rentrer dans une mode de prévention plutôt que de soigner. C'est-à-dire, typiquement aux États-Unis, et c'est la raison, l'une des raisons pour laquelle les objets connectés fonctionnent aussi bien, c'est parce que ça coûte cher, effectivement, de tomber malade. Donc, plutôt que de tomber malade, je fais de la prévention et l'assurance, et d'ailleurs le modèle économique de l'assurance a changé. Hein.
Comment la prévention peut être non individualisée ?
Que la prévention soit non individualisée, au contraire, on a tout intérêt à ce que la prévention soit individualisée. Ah. Ce qui va se passer, c'est que l'assureur va justement aider à prévenir les risques pour qu'au contraire, après, derrière, la personne n'ait pas de problème, ne soit pas malade.
Alexis Normand.
Disons simplement qu'on peut individualiser le service. On peut individualiser le traitement, c'est ce que font les médecins, ils individualisent les traitements, mais en revanche, tout le monde est remboursé de la même manière. Quand vous allez voir un médecin, il fait bien la différence entre le financement et le traitement. Eh bien, avec les objets connectés, ça va être pareil.
Donc, le médecin est soumis au secret médical, par
bien,
exemple.
Eh bien, c'est ça qu'il faut construire. Les plateformes de prise en charge et qui vont vous délivrer des services personnalisés, des calculs de risque personnalisés, des moyens personnalisés de le prendre en charge, vont être financés de la même manière pour tout le monde, de la même manière que le médecin vous soigne différemment, et en revanche, on a tous les mêmes droits. Et je pense qu'il faut juste déporter cette notion de tiers de confiance, votre médecin est votre tiers de confiance, finalement, de la médecine à la e-santé, qui est beaucoup plus large.
Virginie Fauvel, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque évident que un jour, on devienne plus responsable de sa maladie qu'on ne l'est aujourd'hui, et que ça soit à un niveau individuel, justement ?
Je pense que effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la santé va fortement bouger dans les années à venir. Je pense qu'il y a un sujet de souveraineté de notre système de santé. Je pense que les pouvoirs publics doivent accélérer la transformation de la santé en France, justement pour pas se, j'aime pas trop ce terme, se faire ubériser, mais disons se faire doubler par des systèmes de santé alternatifs qui feraient que les personnes en bonne santé auraient un système qui soit différent et qui reste dans le système de santé français uniquement les personnes qui ont des pathologies graves. Donc il y a un sujet, je pense, et je pense que les pouvoirs publics y sont attentifs, mais d'aller vraiment extrêmement rapidement sur la modernisation de ce système de santé et de ne pas refuser la modernisation qu'apportent les objets connectés.
En même temps, donc, il y a visiblement la nécessité d'un encadrement, d'un cadre, et je pense que d'ailleurs même les entreprises comme la vôtre, Alexis Normand, ont besoin d'un cadre pour pouvoir fonctionner.
Absolument. Nous, on voit que les consommateurs adoptent très rapidement nos usages. On voit que les professionnels de santé adoptent très rapidement nos objets aux États-Unis. On voit qu'en France, ils le font très lentement parce que le cadre, en fait, de l'information de santé en France n'a pensé que le médical. Donc, en gros, si aujourd'hui vous voulez avoir la labellisation d'hébergement de données, c'est quand vous lisez attentivement les textes, on ne vous parle que d'établissements de santé. On ne vous parle que de médecins. Il faut qu'il y ait un médecin qui soit derrière les données à chaque fois. Et donc, on n'a pas pensé, quand on a écrit ces textes, déjà avec 10 ans de retard par rapport aux États-Unis, qu'en fait, un jour, ça serait une affaire individuelle. Et donc, il faut évidemment un label pour rassurer les gens. Mais aujourd'hui, on ne l'a pensé que pour les médecins. Et c'est là où il faut évoluer très vite, parce que on voit les professionnels de santé américains adopter très rapidement ces technologies. Et si on ne le fait pas nous-mêmes, eh bien, dans 10 ans, on va acheter des technologies américaines pour faire la même chose.
Virginie Fauvel.
Ça me paraît un point essentiel. Au Conseil national du numérique, on a d'ailleurs recommandé à faire l'évaluation a posteriori sur les objets connectés. Aujourd'hui, c'est a priori, donc du coup, ça met un temps trop long par rapport en fait à la réactivité du marché. Et il nous semble vraiment important de le faire a posteriori pour permettre à nos très belles entreprises françaises de pouvoir attaquer les marchés plus rapidement.
Cédric Williamson, vous avez cité tout à l'heure le DPI, le dossier personnel informatisé, ou
DMP,
DMP en fait, DMP, il a changé donc plusieurs fois. Dossier médical personnel qui effectivement est dans les limbes depuis une dizaine d'années. Révèle le malaise français vis-à-vis de l'évolution du système de santé, en particulier la gestion de ces données de santé.
Complètement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que disait tout à l'heure Anne Fauvel et puis Alexis Normand, c'est que finalement, sur la base du volontarisme et d'initiatives individuelles que proposent les start-up qui proposent des objets connectés, on va arriver à un système global qui va se construire à côté du système public et dans lequel les gens sont éminemment responsables, c'est-à-dire que l'individu souhaite que sa santé aille mieux, l'individu souhaite que le médecin puisse être prévenu s'il y a un problème. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, et sans tout de suite penser à des choses plus glauques, de tracer les gens. Je pense que tout le monde, les assureurs, les providers de services connectés comme chez nous, chez Keywatch, ont une grande responsabilité, sont des gens très sérieux. Il y a un cas qui est très intéressant, je ne sais pas si c'est encore court en Allemagne. Il y a quelques années de ça, quand vous couriez des courses, des marathons par exemple en Allemagne, on vous donnait des tickets et vous les donniez à l'État, et ça vous permettait de payer moins d'impôts, puisqu'a priori vous faisiez du sport, vous étiez en meilleure santé. Après, il y a une question aussi de responsabilité globale. Il y a un moment où les gens qui détruisent la santé, est-ce qu'ils doivent pas être prévenus? On doit pas les aider un peu? Est-ce que c'est pas à l'État de faire ça pour être en meilleure santé, de leur fournir des objets, etc.? Il y a une question qui se pose derrière ça, qui est importante aussi.
Alors justement, est-ce que là on n'est pas à la frontière d'un changement de système de santé, qu'on le veuille ou non, où si le système n'évolue pas par lui-même, visiblement un autre système de santé va se créer en parallèle, qui échappera d'ailleurs complètement ou tout partie en tout cas au système actuel, et on voit pas trop l'évolution. Quand Alexis Normand nous parle de, finalement, en gros, à une époque la santé c'était une affaire de médecine, mais il faut dépasser ça. Est-ce que c'est ça l'objectif? Comment vous réagissez à ces affirmations, Virginie Fauvel?
Moi, je crois que le médecin doit quand même rester le pivot de la relation. Ça me semble essentiel. On a des médecins en France qui sont très bien formés, très impliqués. On a un bon système de santé, le corps médical, d'ailleurs les infirmiers, les infirmières. Il est difficile d'analyser des données de santé par soi-même. Par exemple, quand on se fait...
un système expert, l'intelligence artificielle.
Voilà, je pense
tout à l'heure, on a eu des taux de réussite dans le pronostic de maladie, le diagnostic, donc.
Oui, mais les taux de réussite, c'est pas du 100%, un médecin non plus, mais je pense que l'expérience est importante. Ça ne veut pas dire que nos médecins, nos infirmiers et nos infirmières ne doivent pas utiliser des objets connectés dans leur relation avec le patient. Mais il me semble qu'il reste quand même le pivot central.
Dimitri Carbonel.
Oui, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a malgré tout quand même des problématiques au niveau du nombre de médecins. Il y a parfois un désert médical dans un certain nombre de lieux. Donc c'est vrai que si on a, et les objets connectés le permettent, d'avoir des informations, de faire du diagnostic, ou même pour les urgences où il y a énormément de personnes, de pouvoir faire très rapidement un diagnostic ou un pré-diagnostic qui permet d'orienter qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent ou pas. Et ensuite, effectivement, avec les disponibilités qu'on a, qu'ont les médecins, de dire ok, ben je m'occupe d'abord de telle ou telle personne. Je pense que c'est au contraire, c'est un avantage. C'est-à-dire que le docteur en fait a vraiment pour rôle derrière de s'assurer effectivement du bon diagnostic, du bon traitement. En revanche, il y a certainement des pertes de temps et de l'énergie qui est faite auparavant. Et à la limite, c'est peut-être pas là où il y a le plus de valeur ajoutée de la part du médecin.
Alors on sait qu'il y a énormément de victimes, par exemple des mauvaises prescriptions ou de la mauvaise prise de médicaments en France, donc il y a des systèmes connectés comme les piluliers qui se développent.
Tout à fait, Medicimo notamment.
Améliorer la prise de médicaments. En même temps, on sent qu'il y a un problème de limite à tracer ou de place à trouver aux médecins dans le nouveau système où la collecte de données se fait de façon un petit peu individuelle. Alexis Normand.
Oui, alors il s'agit évidemment pas avec la e-santé de remplacer le médecin. Le médecin est évidemment celui qui va vous soigner. En revanche, le problème, c'est qu'il s'est développé finalement tout un
vous
auto-suivi.
Vous savez qu'il y a quand même un mouvement d'automédication.
Il y a beaucoup d'automédication, il y a beaucoup d'auto-suivi. Mais en fait, le problème n'est pas de remplacer le médecin. Le problème, c'est d'intégrer le médecin dans cette évolution.
Et aujourd'hui, on ne sentait pas quelle était sa place dans votre description.
Et alors justement, j'y arrive. Nous, on constate aux États-Unis que nos objets, et notamment avec le lobbying d'Apple qui fait des iPhones, une plateforme centrale, nos objets communiquent de plus en plus dans le dossier médical. Donc l'enjeu industriel qui est derrière, c'est d'intégrer ce marché grand public, c'est-à-dire ces données existent, les gens suivent leur pas, les gens suivent leur poids, mais on les laisse pas tout seuls avec ces données. Elles auront beaucoup plus de valeur si elles sont partagées avec des gens capables de les analyser intelligemment. Et c'est évidemment le médecin qui doit être le pivot de ça.
Donc vous avez des relations avec les médecins déjà ?
Concrètement, aux États-Unis, le leader de l'informatique hospitalier qui s'appelle Epic a une application mobile qui se connecte à nos produits. Et donc, on a nos balances sont utilisées pour faire du suivi d'insuffisance cardiaque, sont utilisées pour faire du suivi d'hypertension, du suivi de diabète, etc. Maintenant, l'enjeu en France, c'est de permettre aux médecins de faire la même chose, mais le système de rémunération ne le permet pas, et l'organisation ne le permet pas non plus, parce qu'il ne doit pas être rivé devant son ordinateur à compter vos nombres de pas. Il doit être capable de déléguer et d'intervenir en cas d'alerte.
Alors Virginie Fauvel, est-ce que quand même la perspective, c'est pas qu'un jour les assureurs favorisent l'utilisation de ce genre d'instruments, qu'ils puissent même en distribuer gratuitement à certains de leurs assurés, et que finalement, au final, malheureusement, on arrive à ce que ceux qui sont les meilleurs élèves payent moins.
Alors, je pense que l'assureur, effectivement, dans la prévention, va pouvoir distribuer ce type d'objet à des patients qui auraient besoin d'être mieux suivis, d'avoir plus d'exercice, etc. Pourquoi pas ? Mais en revanche, l'assureur ne capturera pas les données individualisées. Ça, en France, aucun assureur demande ça. Donc, du coup, il ne peut pas avoir un lien, si vous voulez, avec les primes d'assurance. C'est plus autour des services, comme on le disait tout à l'heure, que l'assureur va vouloir se positionner. Ou alors, le maintien à domicile...
Prenons le cas de quelqu'un qui a une maladie et qui, deux personnes qui ont la même maladie, l'une fait beaucoup d'efforts, s'équipe, est contrôlée en permanence par les objets connectés qui renvoient les informations quelque part, enfin ça reste à définir, et quelqu'un qui lui est beaucoup moins attentif. Est-ce qu'il est, de votre point de vue, naturel que les deux payent la même prime d'assurance ?
Bah, écoutez, en tout cas, c'est le cas aujourd'hui et je pense que ça va durer. Vous savez que l'assureur, quand il rembourse des paiements de santé, il ne sait pas ce pourquoi en fait il rembourse. Il ne connaît pas la maladie du patient.
Jusqu'à maintenant.
Mais je pense qu'en France, le système perdurera comme ça.
Cédric, oui. Dimitri.
Oui, puis il faut quand même se rappeler une chose. Effectivement, je veux dire, personne n'a envie de tomber malade non plus. Donc, je pense que l'enjeu aussi, hein, c'est vraiment la partie prévention. Et je pense que la distribution, notamment d'objets connectés gratuitement, au contraire, c'est une bonne chose. Enfin, il faut quand même se rappeler que je crois que la longévité ou l'espérance de vie est en train de baisser actuellement.
En bonne santé,
hein, tout
c'est
à fait.
C'est pas pareil que la durée de
vie. Tout à fait. L'espérance de vie en bonne santé est en train de baisser. Hein, je veux dire, en justement utilisant des moyens de prévention avec les objets connectés, au contraire, ça permet de changer effectivement la tendance. Mmh. Et c'est bien ça aussi l'objectif. Et c'est pour la santé de chacun, c'est pas uniquement pour être remboursé.
Sylvie, vous vouliez intervenir, Cédric Williamson, mais c'est vrai que vous êtes
défavorisé
par le duplex.
Oui, tout à fait. On a parlé tout à l'heure effectivement de la question des personnes âgées, car il y a un vrai problème autour de ça en France. Et par exemple, chez KeyWatch, un exemple qui illustre bien justement le volontarisme, la personnalisation des objets, etc. Vous allez pouvoir mettre une caméra chez votre maman très âgée et avoir un système de non-alerte si rien ne se passe. Donc en fait, la caméra, les données restent en local et la caméra auto-détruit les alertes si les éléments si rien ne se passe. Si jamais il y a une absence de mouvement, à ce moment-là, il y a une alerte qui va partir vers les enfants, par exemple, de cette dame-là.
Et très bien, ça, c'est malheureusement, c'est sur bon cette exemple. Note, voilà, sur ce bon exemple que le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Dimitri Carbonel, Virginie Fauvel, Alexis Normand et Cédric Williamson d'avoir participé à cette émission.
Merci
à vous tous. Sur notre tout nouveau site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an et très bientôt, donc, nous faire part de vos commentaires. La semaine prochaine, vendredi 5 février, nous passerons de la santé connectée à la notion de bonheur dans le cadre de notre émission mensuelle en partenariat avec Science et Vie. Nous nous pencherons sur les indicateurs du bonheur que l'on peut trouver au sein même du corps humain, qu'il s'agisse de nos gènes, de nos hormones ou du fonctionnement de notre cerveau. Ces découvertes peuvent-elles nous aider à nous sentir plus heureux? Nous en débattrons avec nos invités Claudia Sénic, Mathias Pensilione et Sébastien Bourré. Sciences Publiques, Viviane Noël, Myriam Guillot, la collaboration de France Bleu, Loire, Océan à Nantes pour le duplex, Marie Dalquier, Michel Alberganti.